J'en arrive quand même à la fête d'aujourd'hui, les Saintes Mirefort. Imaginez un petit peu ces Saintes Mirefort qui viennent avec des aromates pour aller embaumer le corps de leur Seigneur et Fils, puisque parmi elles il y avait la Mère de Dieu. Elles viennent embaumer le corps du Christ, forme du Christ avec son corps, qu'elles avaient servi, qu'elles avaient écouté, qu'elles avaient suivi pendant au moins 3 ans, voire 35 si c'est pour la Mère de Dieu. Quel étonnement! D'abord, quand elle voit le tombeau vide, et quand il y a quelqu'un qu'elle ne reconnaisse pas, qui prétend, enfin, qu'elle croit être le jardinier, parce que la forme que, c'est-à-dire le responsable du jardin, et qui appelle l'une d'elles par son prénom, et avec ce prénom, elle reconnaît que c'est le Christ, qui lui dit: ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Vous arrivez à réaliser ce que ça représente? Vous arrivez à vous mettre dans la peau, si je puis dire, des saintes femmes qui avaient entendu tous les messages du Christ, avaient entendu parler de la résurrection? Mais la résurrection n'était pas encore n'était pas encore passée dans les mœurs, si je puis dire. Pas beaucoup plus qu'aujourd'hui. J'exagère en disant ça, parce que si, aujourd'hui, autrement, ma femme. C'était incompréhensible. Et, si je puis dire, si je peux poser cette question-là, qu'est-ce que les saintes femmes ont vu de la résurrection? Elles ont reconnu leur Seigneur, elles ont reconnu, et le nôtre, elles ont reconnu le Christ, certes. Mais sous quelle forme? Il leur dit: ne me touche pas. Alors que s'il est corporel, on devrait pouvoir le toucher. Il dit... Il avait annoncé qu'il devait ressusciter. L'ange leur dit qu'il avait annoncé qu'il allait se relever. Le voilà relevé, mais malgré tout, on ne peut pas y toucher. Donc, je voudrais poser la question, ou je me pose la question, mais quel corps? Que voit-elle? Quel corps voit-elle? Avouez qu'il est tout de même difficile. Nous sommes des scientifiques tous, à notre époque moderne, même si nous ne sommes pas des spécialistes de la science. Il est difficile d'imaginer les corps pourris depuis plusieurs générations qui reprennent vie tout d'un coup, avec les petits vers qui plaisent tant à Sœur Simonique, qui tout d'un coup s'échappent. Surtout quand ce sont des corps qui sont plusieurs fois passés. Non pas, je ne prédis pas pour la réincarnation, mais qui sont plusieurs fois passés dans ce qu'on appelle le cycle de l'azote, c'est-à-dire qui ont été mangés par les racines de pissenlit, dont nous avons après mangé les feuilles, donc nous avons ingurgité l'azote qui était dans le corps de nos défunts. Et au moment de la résurrection, qu'est-ce qui va ressusciter ? On va ressusciter par couches comme ça? Je le dis avec un peu d'humour, pour essayer de vous faire réaliser la difficulté de concevoir le corps ressuscité. C'est pas simplement pour blaguer. C'est une grosse question. Et à cette question... D'abord, Cette question-là suscite notre foi, l'adhésion de notre foi. Nous croyons en la résurrection. Nous croyons en la résurrection des morts, dit-on dans le Je crois en Dieu, dans le credo. Le Seigneur nous a annoncé aussi de son vivant physique, historique. Il nous a annoncé la résurrection. Donc c'est une réalité de foi, annoncée par celui-même qui est le Créateur, donc il sait de quoi il parle, et qui nous montre, justement aujourd'hui, qui nous montre ce qu'il a préparé, donc cette résurrection pour la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est donc ? Est-ce que c'est une résurrection comme celle de Lazare ? Pour Lazare, c'est son corps charnel, sa chair, sa viande, ses nerfs, sa pensée, son esprit, tout ça a repris vie, mais pour un temps limité. On ignore d'ailleurs pendant combien de temps. Rappelez-vous aussi que au moment de la résurrection, le même Christ ressuscité est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Et saint Paul disait, et beaucoup d'entre eux sont encore vivants aujourd'hui. Qu'ont-ils vu les uns et les autres? Ils ont vu en Christ un nouveau Lazare? Ou ils ont vu autre chose? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vu la même personne. Mais sous quelle forme? Eh bien, à cette question qui induit notre interrogation sur notre propre devenir, qu'est-ce qui va ressusciter de nous? Notre forme actuelle? De moins en moins de gens le croient. Et le Christ n'a pas cherché à nous le faire croire d'ailleurs. Ou autre chose de nous-mêmes. Mais pas simplement notre âme non plus. Donc qu'est-ce qui va ressusciter? À cette question, je pense que pouvons trouver un aspect de réponse dans la première épître aux Corinthiens. Je ne vous lis pas l'épître, mais je vous la cite comme ça pour que vous puissiez vous y reporter si le sujet vous intéresse. La première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 40 ou 42, et la suite. Saint Paul dit ainsi. En est-il à la résurrection des morts? Ce qui est semé corps physique ressuscite comme corps spirituel. Là encore, ça demande une explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que notre corps physique, celui que nous connaissons aujourd'hui, va s'éthérer, c'est-à-dire de l'éther, va être plus léger? Un corps qu'on appelle à tort, dans notre monde occidental, le corps glorieux. Je pense que ça va plus loin que cela. L'indication, ce que nous explique saint Paul, qui dépasse les conceptions couramment admises dans notre monde, dans notre pensée, même chrétienne, influencée par la philosophie antique grecque, notamment de Platon et d'autres, où nous faisons la distinction entre le corps et l'âme. Saint Paul, lui, est obligé de, pas d'inventer, mais de révéler une autre conception plus profondément chrétienne du composé humain, de qui est l'homme. Pour lui, l'homme n'est pas simplement un corps et une âme, n'est pas simplement un corps, un esprit et une âme. Pour saint Paul, il y a, c'est difficile à dire, il y a comme, on est, chaque personne assume deux corps. C'est-à-dire, comme le corps de Jésus avant sa résurrection, qui est ce que je pourrais appeler le corps naturel, ou le corps animal, biologique, qui est à la fois corps et à la fois esprit. C'est le corps, c'est ce qu'on appelle le corps de chair ou la chair. C'est le corps tel qu'on le vit, le corps vécu, si je peux l'appeler. C'est pour le Christ. C'est le corps qui a souffert sur la croix, y compris dans son aspect psychologique, spirituel, intérieur, si vous voulez. Mais le Christ révèle, d'après saint Paul, une deuxième forme de corps, liée au premier évidemment, puisque c'est la même personne qui le vit. C'est un corps, celui qu'on a vu, le corps complètement transfiguré, tel qu'on l'a vu sur le mont Tabor. Un corps habité par l'esprit, ce que saint Paul appelle ici, dans l'épître aux Corinthiens, qu'il appelle le corps spirituel, ou encore le corps pneumatique, entendez par pneumatique évidemment le corps de l'esprit, le souffle, et pas le corps d'un bibadum de Michelin. Le corps spirituel, donc notre deuxième corps, si vous voulez, le corps spirituel est doté par Dieu d'une faculté métaphysique, d'une faculté, appelons-la spirituelle pour simplifier, pour avoir un vocabulaire plus simple, où la personne, l'unique personne qui vit ces deux niveaux de corps, prend part volontairement, si elle le veut, à l'accomplissement, à l'aboutissement de sa création. Le corps biologique, le corps charnel, ne servant que d'enveloppe, que d'outils dont le corps spirituel peut se servir tant qu'il est dans la condition de ce monde pour faire ses choix, pour progresser, pour être inscrit dans le temps et dans l'espace qui lui donne la liberté d'assumer sa condition et de participer à l'accomplissement de ce que Dieu avait voulu pour lui. C'est dans un autre vocabulaire exactement ce qui nous avait été annoncé dans le livre de la Genèse, lorsque nous voyons que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance, c'est-à-dire à l'image de Dieu, mais en vue de sa participation personnelle à son perfectionnement. Saint Paul compare le corps charnel à un vêtement. Le vêtement même bien taillé, même bien ajusté, ne fait pas partie de la chair. Il enveloppe la chair. Mais il s'en distingue, fort heureusement d'ailleurs. Et s'il se distingue de la chair, c'est quand même à travers le vêtement que les autres à l'extérieur peuvent trouver une clé de lecture pour comprendre, pour voir, pour aimer ou pour haïr, pour aimer celui qui habite ce vêtement. Suivant la manière dont on est habillé, révèle quelque chose de notre personne. C'est pas pour rien que dans la vie monastique ou la vie sacerdotale, on porte un habit particulier. Où on dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est exact. Et pourtant, à travers l'habit, on peut découvrir le moine ou la moniale. Saint Paul le dit encore, il faut que cet être périssable que nous sommes revête, donc prenne un vêtement, s'habille de ce qui est impérissable. Vous voyez le mouvement ? Notre être biologique est périssable. Mais nous devons revêtir, nous devons apprendre à revêtir, nous devons nous efforcer, nous devons faire le mouvement de nous revêtir de ce qui est impérissable. Et ce qui est impérissable ne dépend pas de nous. C'est uniquement quelque chose dont on laisse, si on le veut, se revêtir. Et ce vêtement, c'est le Christ. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Et ceci s'accomplit pour tout le monde par la foi d'une part, par la pratique d'autre part. Quand j'entends la pratique, ce n'est pas les obligations légales, mais c'est par la mise en application de cette vie du Christ qui devient nôtre à travers l'amour pour Dieu d'abord et l'amour pour les autres ensuite, à travers la prière, à travers les sacrements, à travers le jeûne aussi. Parce que le jeûne entre dans ce cadre-là, le jeûne qui est purement physique, j'allais dire. Mais le jeûne est une participation de notre corps, parce que nous sommes les deux à la fois. Une participation, une domestication, si je puis dire, de notre corps lui-même à cette autre réalité qui est la réalité spirituelle à laquelle on peut accéder à travers même le jeûne. Et c'est ce corps-là, certainement, que la Mère de Dieu et Sainte Marie-Madeleine et les femmes Mirophores ont découvert en voyant le Christ. Ressuscité, bien sûr. La résurrection, c'est ça. La résurrection, c'est certainement ce dépouillement du vieux vêtement dont le Christ parle par ailleurs quand, dans cette parabole, qu'on ne met pas une pièce de vêtement neuf sur une guenille usagée. Mais notre mort consiste à ce dépouillement qui doit être volontaire, et je ne parle pas de suicide évidemment, mais qui doit être volontaire pour abandonner les choses, cette condition mortelle dans laquelle nous sommes, pour revêtir en plénitude, donc avec enthousiasme et aspiration, l'autre vêtement dont nous avons déjà été revêtus à partir du baptême, et dont tout homme est revêtu d'une autre manière, du fait même que le Christ est devenu a pris sa chair, de manière à devenir l'être spirituel, arrivé à son achèvement, mais avec notre participation personnelle telle que Dieu l'avait voulu, en prenant comme modèle et comme force, comme dynamisme, la vie même de Christ, en l'imitant au maximum, et l'imitant pas de manière formelle, mais en prenant, en adoptant les dispositions d'esprit qui sont les siennes. Saint Cyrille d'Alexandrie dit que nous portons en nous l'image du terrestre. Du terrestre, entendez, pas simplement de la planète Terre, mais du cosmos créé, de la matière, si vous voulez, de la matière et de l'intelligence issue de la matière. Nous portons l'image du terrestre, c'est-à-dire nous portons en nous la propension au péché, la propension à la jouissance personnelle, à l'enfermement sur soi-même. Mais désormais, par le baptême, par la communion, par la prière et tout ce qui fait notre conversion, nous porterons l'image du céleste, du terrestre, nous passons au céleste, c'est-à-dire que dans le Christ, en Christ, nous acquérons la fermeté en vue de la sanctification et du renouveau. C'était ça l'essence de l'incarnation, c'est ce que nous avons fêté les jours précédents, et d'une certaine manière, c'est ce que nous fêtons tout au long de l'année, tout au long des fêtes, mais à chaque instant même de notre vie. Le Christ est la source de notre salut. Ce n'est pas notre sanctification n'est pas toute faite par un don. Il nous avait créé avec une sanctification parfaite, mais nous nous sommes écartés. Et maintenant, la grâce du baptême et des sacrements, l'Eucharistie, ne sont pas une sainteté toute faite qui nous imposerait comme ça, malgré nous, mais même si nous, et pourtant, même si c'est un mystère, une réalité qui nous dépasse de beaucoup, puisque nous sommes terrestres, et que ça ne peut être qu'un don de Dieu, c'est un don de Dieu qui nécessite cependant notre adhésion, notre volonté, notre effort pour essayer de nous mettre en disposition de l'acquérir. C'est une force, ce qui nous est donné n'est pas une sainteté toute faite, mais c'est une force inébranlable en vue de notre sanctification à lui. Et cette force, c'est la force du Saint-Esprit que nous acquérons en Christ dans la mesure où nous nous essayons de nous attacher à lui. Il ajoute encore, le même Saint Cyrille ajoute encore, s'appropriant l'âme humaine, le Christ l'a faite plus forte que le péché en l'imprégnant comme une teinture, de la stabilité de l'immutabilité de sa nature à lui. C'est vraiment en nous incorporant, en essayant de demander la grâce de Dieu, de nous incorporer en lui, que lui passe en nous pour nous faire de nous des êtres spirituels et nous revêtir de notre corps spirituel qui aboutira à sa plénitude après notre mort. À lui soit la gloire, l'honneur et l'adoration, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Amen.